Voilà, bonjour à tous. On va poursuivre ce temps avec un moment de réflexion et puis après avec des partages et de nouvelles de l'association Porte Ouverte et différentes informations. Et durant tout ce temps, eh bien, Nathalie sera le porte-parole des chrétiens persécutés qui ne sont pas là pour s'exprimer. Elle va s'exprimer quelque part en leur nom. Alors, quand on parle, bien évidemment, de chrétiens persécutés, eh bien, et de persécution dans le monde, on ne peut pas s'empêcher, bien sûr, eh bien, d'évoquer le thème de la souffrance. Et comme l'a dit Eric tout à l'heure déjà, on sait que 360 millions de chrétiens dans le monde sont fortement discriminés, voire victimes de violences et même tués à cause de leur foi. Et la Bible, elle, ne manque pas d'exemples concernant des personnes qui ont souffert dans leur vie. On pense bien sûr à Job, qui a tout perdu, sa famille, sa fortune, sa santé. On pense, entre autres, par exemple à Étienne, qui est mort en martyr, ou encore à Paul, qui a été lapidé, battu, emprisonné à cause de sa foi. Et puis peut-être que nous-mêmes, à un niveau moindre, nous pouvons être victimes peut-être de moqueries, de rejet ou bien d'indifférence lorsque nous cherchons à témoigner de notre foi autour de nous, ou bien peut-être encore aussi nous pouvons nous retrouver confrontés au mur de la laïcité. Et puis, à différents degrés et pour différentes raisons, eh bien, nous pouvons tous être concernés par la souffrance, que ce soit la perte d'un proche, que ce soit la maladie, un divorce douloureux, des enfants qui s'éloignent de la foi, ou bien le rejet, donc les conflits. Quelque part, il est impossible de l'éviter, cette souffrance qui fait partie de notre quotidien. La raison de la souffrance reste une des grandes questions de la vie humaine. Elle l'a toujours été et elle le sera probablement encore longtemps. Et dans le cas des chrétiens persécutés, la souffrance fait partie du prix à payer quelque part pour suivre Jésus dans un monde qui le rejette. Mais elle peut aussi, dans d'autres cas, être causée par notre péché et par nos mauvais choix et les conséquences qui en sont produites, ou encore par le fait que nous vivons encore dans ce monde déchu jusqu'à ce que le Christ revienne un jour. Et si la question du pourquoi reste un mystère, difficile à élucider, souvent l'objet de nombreux débats, en fait nous n'avons pas d'autre choix quelque part que finalement d'affronter la question du comment. Comment réagir face à cette souffrance que j'ai ? Face à cette situation que je vis. Quelle attitude adopter lorsque elle se manifeste? Comment ne pas sombrer dans l'amertume, dans la déception, peut-être même la dépression? La Bible nous apporte des éléments de réponse et on ne s'est pas concerté avec Paul, mais justement, le psaume 13, écrit par David, en est un exemple. Et en 6 versets seulement, eh bien, il nous donne des clés pour exprimer notre souffrance, pour ne pas laisser l'amertume nous envahir et pour recevoir la joie et la grâce que notre Seigneur nous offre. Lisons donc ce texte dans les psaumes.
Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien.
Jusque à quand, Seigneur? Dans les versets 2 et 3, David épanche son cœur devant Dieu en quatre plaintes assez directes qui peuvent même nous sembler accusatrices un petit peu. Mais ce sont des plaintes qui ressemblent aussi d'assez près à ce que nous pouvons parfois ressentir, exprimer devant Dieu si nous sommes honnêtes. C'est bien là la force du livre des psaumes comme l'a écrit un chrétien persécuté. J'ai trouvé cette citation très profonde quelque part. Le livre des psaumes est l'un des livres les plus lus et les plus appréciés de la Bible, et je pense que nous serons tous d'accord là-dessus. Alors que la plupart des textes bibliques nous parlent, les psaumes, eux, parlent pour nous. Ils expriment nos sentiments les plus profonds. Il semble y avoir un contraste dans les réactions de David, une constante dans les réactions de David, de Job et des autres face à leur souffrance. Tous se montrent parfaitement honnêtes avec Dieu en lui exprimant leurs tourments et leurs questions. Ils ne cherchent pas à les minimiser ou bien à les garder pour eux, à garder pour eux leurs émotions. Non, au contraire. Ils ouvrent leur cœur avec vérité devant le Seigneur. C'est pourquoi je ne me retiendrai pas. Je parlerai dans la détresse de mon esprit. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme, dit Job au chapitre 7. C'est l'amitié qui les lie à Dieu qui leur donne cette audace, parce qu'ils sont si proches de l'Éternel qu'ils se sentent libres de s'exprimer ouvertement. Avec ces quatre « jusqu'à quand », David identifie les différents sentiments qu'il éprouve et qui sont douloureux pour lui, tant dans sa situation personnelle que dans sa relation avec Dieu, mais aussi avec les autres. Premièrement, il y a le sentiment d'être abandonné, oublié de Dieu. Ensuite, deuxièmement, il y a le sentiment d'être rejeté, privé de la faveur de Dieu. Troisièmement, il y a le poids des soucis et du chagrin qui remplissent son âme. Et enfin, quatrièmement, il y a sa crainte d'être maltraité et humilié par les autres. Dans la souffrance, il est parfois très facile de se sentir seul, oublié par Dieu, loin de Dieu, et de se laisser gagner par le mensonge que Dieu nous a rejeté et oublié. Les chrétiens persécutés expriment aussi parfois avec honnêteté ce sentiment, comme par exemple le jeune Traoré du Burkina Faso qui était avec son père lorsque celui-ci a été assassiné par les Peuls.
J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné. Mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi, mais il m'a soutenue durant ma souffrance.
Comme David et comme Traoré, n'ayons pas peur de reconnaître les différents sentiments qui peuvent nous traverser. Solitude, abandon, rejet, crainte, exprimons-les à Dieu. Si nous gardons ces sentiments enfouis en nous, si nous préférons les ignorer ou bien les cacher, les mettre sous le tapis plutôt que de les assumer, eh bien ils peuvent alors facilement enraciner l'amertume dans nos cœurs. Et ces racines d'amertume produisent alors des fruits de colère, d'insatisfaction et de conflit avec les autres, qui conduisent à davantage encore de souffrance dans nos vies. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous a mis en garde. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons, ne causant du trouble, et que beaucoup en soient infectés. Hébreux 12. Job aussi parle de cette nécessité. C'est pourquoi je ne me retiendrai pas. Je parlerai dans la détresse de mon esprit. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. En résumé, comme David et comme Job, n'oublions pas, que nous avons un Dieu d'amour infini, toujours prêt à nous écouter. Soyons transparents devant lui et disons-lui tout ce que nous avons sur le cœur. Lorsque nous exprimons notre souffrance dans la prière, nous pouvons rencontrer un Dieu vivant, un Dieu présent et actif dans nos vies. Ouvrir son cœur et exprimer nos émotions est nécessaire pour bâtir une relation de confiance avec notre famille, par exemple, ou bien avec nos amis. Alors, pourquoi cela serait-il différent avec Dieu? David continue et dit « Regarde, réponds-moi ». Dans cette deuxième partie du psaume, David quitte le registre de la plainte pour rentrer dans une phase plus active. La demande, l'expression de ses besoins. Et ce qu'il cherche avant tout, eh bien, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est ce qu'il exprime quand il demande à Dieu de le regarder et de lui répondre. Au verset 4. On peut presque l'entendre crier quelque part à l'Éternel pour attirer son regard et obtenir son attention. L'image ressemble à celle d'un enfant qui désire plus que tout l'attention inébranlable de son père. Avec cette prière, David reconnaît sa totale dépendance du Seigneur. Il sait qu'il ne peut rien sans l'Éternel. « J'ai besoin de toi, dit David. Sans ton intervention, je resterai dans la souffrance et à la merci de mes adversaires. » Lorsque l'on se retrouve confronté avec des difficultés, le danger est de croire que l'on peut ou que l'on doit s'en sortir tout seul. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition une grande quantité de ressources, d'astuces, de conseils et de techniques pour aller mieux. Oui, nous pouvons aussi choisir d'ignorer notre souffrance et nous plonger dans le travail, par exemple, dans la réussite personnelle et dans les distractions en tout genre. Pour Ayouba, la solution était simple. Pour aller mieux, eh bien lui, il lui fallait se venger. Se venger en tuant les personnes responsables de la mort de son père. Mais il a expérimenté que recevoir de l'aide était bien plus efficace pour guérir et retrouver réellement la paix.
En 2020, Boko Haram a attaqué le village d'Ayouba dans le nord du Nigeria. Si Ayouba a pu s'enfuir avec certains de ses frères et sœurs, ce n'est pas le cas de leur père. Il raconte. Ils ont attrapé notre père et l'ont amené à l'extérieur où ils l'ont mis à genoux. Ils lui ont demandé de lire un passage du Coran pour vérifier s'il était musulman. Mais il n'a pas essayé de cacher sa foi en Jésus. Il leur a dit qu'il était chrétien. Ils l'ont décapité sur place. Lorsqu'Ayouba est retourné au village, il a vu trois corps sur le sol. J'ai reconnu mon père à ses vêtements. Je me suis agenouillée à ses côtés et j'ai prié. Dieu, je suis reconnaissant. Tu as donné et tu as repris. Que mon père repose avec toi. Ces paroles font écho à celles de Job. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Mais Ayouba a décidé de se venger. Il a même commencé à porter un couteau lorsqu'il a appris qu'un homme du village avait aidé Boko Haram à identifier ses cibles. Il était déterminé à tuer cet homme. Avec sa famille, il a finalement déménagé plus au sud, à environ 8 heures de route de leur village. Un pasteur leur a recommandé d'aller au centre Shalom, tenu par les partenaires de Porte Ouverte, pour y recevoir des soins post-traumatiques. L'aide qu'il a reçue a transformé Ayouba. Lorsqu'on lui demande quelle est la leçon la plus importante qu'il a apprise, il répond « le pardon ». Avant, il était déterminé à venger la mort de son père. Mais au centre, il a déposé le couteau qu'il portait sur lui. Lorsque je suis arrivé ici, dit-il, j'avais décidé de ne jamais pardonner et de venger la mort de mon père, explique Ayuba. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec l'homme qui l'a dénoncé. Si nous nous rencontrons, nous nous saluerons. J'ai réalisé que je ne gagnerai rien à me promener avec un couteau pour me venger, puisque je serai toujours blessée et que je n'aurai jamais l'esprit tranquille. J'ai donc décidé de laisser tomber ma colère et d'être en paix. Dieu m'a amené ici pour me guérir.
Demander de l'aide à Dieu doit être notre priorité. Si sa présence est indispensable au quotidien, elle l'est d'autant plus lorsque notre souffrance nous ronge. Après avoir cherché la présence de Dieu pour lui demander de la lumière, David demande à Dieu de lui donner de la lumière à ses yeux. Plusieurs idées sont associées à cette notion de lumière. D'abord, grâce à la lumière de Dieu, David souhaite voir la situation comme Dieu, lui, la voit. Il reconnaît que la perspective humaine est limitée, tandis que la vision de Dieu est toujours pleine et parfaite. La lumière est aussi un moyen de discerner la main de Dieu à l'œuvre dans l'obscurité si épaisse que nous pouvons traverser. Les yeux, quant à eux, sont considérés comme le reflet de l'âme. Obtenir la lumière dans les yeux projette l'image d'une âme lumineuse, riche et joyeuse. Et dans sa lettre aux Éphésiens, Paul reprend précisément cette idée. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. En d'autres termes, nous sommes encouragés à demander la lumière de Dieu pour avoir sa perspective sur notre situation. Ne pas perdre de vue sa souveraineté sur nos vies, même quand nous avançons au milieu des ténèbres, et garder l'espérance. Et puis David interpelle Dieu pour lui dire qu'il ne veut pas sombrer dans le sommeil de la mort. Et cette image du sommeil de la mort est très parlante et peut-être même un peu effrayante. On ressent l'inquiétude de David se glisser dans le vide du désespoir ou de la dépression. Et cette crainte, elle est légitime. Sans la lumière du Dieu de vérité pour nous éclairer tel un phare qui perce la brume du désespoir, eh bien la navigation dans les eaux troubles de la souffrance et de l'amertume n'est pas simplement difficile, elle est dangereuse. Sans la lumière qui donne vie, nos âmes peuvent se noyer dans les profondeurs de la désolation. Marie aussi avait toutes les raisons de sombrer dans ce sommeil de la mort. Les multiples traumatismes qu'elle a subis sont de ceux qui, à vue humaine, nous brisent définitivement. Même si la douleur ne l'a jamais vraiment quittée, voir Dieu agir de façon surprenante au sein même de son épreuve, la garder du désespoir.
Marie avait 20 ans lorsque des militants peuls, ethnie terroriste, ont attaqué l'église dans laquelle elle se trouvait. Retenue captive pendant 54 jours, elle a subi des violences sexuelles répétées. Elle a aussi été forcée de cuisiner pour ses agresseurs, alors qu'elle-même ne pouvait manger que la nourriture des animaux. Plusieurs fois, Marie a vu la main de Dieu à l'œuvre et puissamment agir pour elle et les autres femmes détenues à ses côtés. Un homme avait une arme et était prêt à nous abattre toutes, se souvient-elle. Je n'arrêtais pas de prier dans ma tête et pour une raison inconnue, l'homme est parti et nous a laissés seuls. Je sais que Dieu est intervenu. Un jour, l'un des Peuls est venu s'asseoir à côté de Marie. Elle s'est sentie obligée de lui demander s'il réalisait le mal qu'il faisait. Il a répondu que tous savaient ce qu'il faisait était mal, mais qu'il ne pouvait pas arrêter. Je lui ai dit qu'il y avait bien un moyen d'arrêter. Si vous donnez votre vie à Jésus, il vous pardonnera et vous pourrez arrêter toutes ces choses que vous faites. Le courage de Marie est étonnant. Elle a partagé l'évangile avec deux autres de ses ravisseurs. Même face à un danger extrême, elle voulait annoncer la bonne nouvelle. Malheureusement, il n'était pas du tout réceptif. Marie était tout de même restée fidèle dans la prière. J'ai continué à prier dans mon cœur pour que Dieu nous sauve de cet endroit, car personne d'autre ne peut nous sauver. Seule sa puissance et sa grâce peuvent nous sortir de là. Les prières de Marie ont été exaucées. Dieu l'a vraiment fait. Je remercie Dieu qui m'a sauvée et m'a ramenée à la maison. J'aime vraiment Dieu. Toutes les femmes ont été libérées. La douleur du traumatisme vécu n'a jamais réellement quitté Marie, ce qui ne l'a pas empêchée de louer le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait et pour la paix intérieure qu'il lui a apportée. Marie est malheureusement décédée suite à des complications liées à une intervention chirurgicale. Depuis, elle avait été interviewée. Marie et sa famille voulaient que son histoire soit entendue, car tant d'histoires semblables restent malheureusement cachées. Personne ne doit être confronté seul à la persécution et aux traumatismes qui y sont liés.
Nous voici arrivés à la fin du psaume 13, avec ce verset « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». Quel contraste soudain entre ce dernier verset et les premières lignes du psaume. Il semble peu probable que David ait écrit le psaume 13 sur plusieurs années en mettant ce verset comme un point final à des années de vie comme ça. Non. C'est donc probablement au cœur de son épreuve et de sa souffrance que David est capable de cette magnifique louange. Ce retournement final illustre une fois encore cette vérité si profonde et qui traverse toute la parole. Notre joie et notre paix ne sont pas conditionnées par nos circonstances, non. Elles ne sont pas conditionnées par ce que nous vivons ou bien par ce que les autres vivent autour de nous. Bien sûr, nous aspirons tous à une vie où les problèmes se règlent, où la souffrance est limitée et où les circonstances nous sont favorables. Et il est légitime d'attendre cela de Dieu, comme les enfants espèrent de bonnes choses de leurs parents. C'était aussi ce qu'attendait David, mais cela ne peut pas être le fondement de notre foi. Parce que, comme des enfants, nous ne savons pas souvent ce qui est bon pour nous. Si notre reconnaissance et notre amour sont fondés sur la réponse de Dieu à nos prières, alors, quelque part, nous avons un problème. Comme David l'exprime, notre joie et notre reconnaissance sont la réponse à qui est Dieu, au salut qu'il nous donne. C'est lui-même notre bonne nouvelle, et non ce qu'il fait pour nous. David nous encourage ensuite à chanter en toutes circonstances. Et les chrétiens persécutés expriment eux aussi souvent de façon très concrète cette façon de réagir. Et nous avons de très nombreux témoignages de chrétiens qui ont ressenti une joie profonde simplement par la présence de Jésus à leur côté, alors même qu'ils traversaient de grandes souffrances physiques ou émotionnelles. Voici l'exemple d'Awel qui est sorti du désespoir et de la déception en réalisant quel était le vrai but de son existence. Aimer Dieu par-dessus tout et le louer, quelles que soient les circonstances.
Awel a passé 15 ans de sa vie en prison. Mais malgré les tortures endurées, il n'y a jamais connu la dépression. Il supportait avec joie son emprisonnement car il désirait montrer qu'il était un témoin vivant de Jésus-Christ. Un témoin fort. Ce furent 15 années de paix avec le Seigneur. Une fois sorti de prison, Awel s'est retrouvé désorienté et même déprimé, car il n'était pas préparé aux défis qui l'attendaient. Sa femme et ses enfants ne l'attendaient plus et avaient continué leur vie sans lui. Ses amis, eux, avaient avancé dans leur vie pendant ces 15 ans. C'était la confusion dans sa tête. Il se disait « Qu'ai-je fait pendant ces 15 ans en prison ?» Il était déçu. Il doutait de ses capacités. Il s'est mis à douter de la bonté de Dieu. Il se disait « Ma vie est pleine de désespoir, a-t-elle encore un sens ?» Ainsi, il est entré dans la plaine de l'amertume au bord de l'étang de la déception. Pour sortir de cet état, il a fallu qu'Awel comprenne le plan de Dieu pour lui-même, le vrai sens de son existence, celui que Jésus nous rappelle dans Matthieu 22. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. C'est ça le sens profond et le but de nos vies. Ainsi, Awel a réussi à accepter les frustrations de ses 15 années passées en prison et cette traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Il a pu recommencer à vivre pour Dieu. Aujourd'hui, il doit toujours faire face à diverses persécutions, mais voici ce qu'il déclare. Quand je suis persécuté, je me dis que cela vient de Dieu. Et quand Dieu me délivre, cela aussi vient de lui. Dieu est bon en toutes choses. Donc, quand la persécution vient, je chante. Et quand Dieu me délivre, je chante aussi. J'ai un chant pour chaque circonstance. C'est un miracle pour moi. J'ai perdu tant de choses. Ma femme, mes enfants, mes biens. Et encore aujourd'hui, tant de persécutions m'entourent, mais je suis heureux, je me réjouis à cause de Christ. Tout ce que j'ai perdu est de ce monde. Mais ma joie est au ciel, dans ce qui est éternel. La plus belle des guérisons est la guérison de l'âme. Et nous,
est-ce que nous avons un chant pour louer Dieu dans toutes les circonstances de notre vie, les plus favorables comme les plus douloureuses? Jésus est toujours là. Après de telles expériences, beaucoup de frères et sœurs persécutés témoignent de l'assurance que Dieu leur a donnée au travers de l'épreuve. Ils deviennent capables de rire, de vivre en paix avec Dieu, quelles que soient les nouvelles épreuves qui leur arrivent. Mais cela passe souvent par un processus de guérison pour quitter le rivage de l'amertume qui peut facilement s'installer en nous, suite à la souffrance. Il nous faut alors déposer notre propre situation, lâcher prise et accepter la réalité de ce que nous éprouvons. Nous ne devons pas craindre de regarder notre vie et nos sentiments avec lucidité parce que Jésus est toujours là, malgré la déception et le découragement, et il nous sort de l'étang du désespoir. Ensuite, pour surmonter nos déceptions, il nous faut comprendre le vrai sens de nos vies, ce qui compte réellement. Seulement alors pourrons-nous réévaluer nos existences avec une perspective nouvelle. Et même si nous avons dû beaucoup perdre et traverser la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons entrer dans la joie. Alors en conclusion, qu'est-ce qui compte réellement? Qu'est-ce qui donne de la valeur à nos vies? Qu'est-ce qui nous aide à dépasser la souffrance et à être dans la paix? C'est notre amour pour Dieu, notre amour pour notre prochain et notre amour pour nos frères et sœurs, où qu'ils soient dans le monde. Alors, encourageons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. C'est dans cet amour que nous grandirons avec Dieu. Ne restons pas dans l'amertume si nous en avons, afin de ne pas passer à côté de la grâce de Dieu. Ainsi que je le rappelle, ce verset que nous avons déjà lu, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne s'installe en vous et ne crée des rejetons ne causant du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Rappelons-nous que l'épreuve produit du fruit, comme le souligne Paul aux Philippiens. « Je désire que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé alors qu'il est en prison, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Retrouvons le chemin de ce qui est important, c'est-à-dire le chemin de la grâce de Dieu vécue par Jésus-Christ jusque sur la croix. Au travers de ses propres souffrances, de sa propre solitude et de son abandon par le Père à la croix, eh bien notre Seigneur nous comprend. Et il est le seul capable de nous relever et de nous offrir une joie profonde, entière, pure et indépendante des circonstances. Il a payé un prix considérable à la croix pour nous offrir cette paix, déterminé à nous sauver parce qu'il nous a aimés le premier d'un amour infini et insondable.
Prière écrite par Mehdi Dibage, chrétien iranien, emprisonné, torturé et condamné à mort en raison de sa foi. C'est aux humbles que Dieu accorde sa grâce. C'est dans le feu que l'or est purifié. C'est le polissage et la taille qui rendent le diamant brillant. C'est à haute température que la rouille du pot est brûlée. C'est par la porte étroite que nous entrons dans le royaume des cieux. C'est dans de très grandes épreuves que naissent les hommes, les femmes de Dieu. Seigneur, fais de moi un tel homme, une telle femme.